Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui le porte-parole donc de toutes les personnes en situation de handicap et leurs familles que j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer et grâce auxquelles donc je peux vous présenter une petite synthèse de l'état des lieux de leur accès à la santé. Alors, je ne reviendrai pas sur le contexte de ce travail puisqu'il a été brillamment décrit par tous mes prédécesseurs. Et donc, je vais vous dire juste un petit peu comment j'ai procédé. C'était des entretiens, une dizaine d'entretiens, donc qui ont mobilisé 12 associations qui représentaient 8 grands types de handicap. Et donc, au total, c'est une trentaine de personnes en situation de handicap et une cinquantaine de proches qui ont été mobilisées pour mettre en commun leur expertise. Alors, le périmètre de cet état des lieux était bien défini au départ, c'était l'accès aux soins courants, c'est-à-dire comme pour vous et moi, quand on a une grippe, on doit aller faire une radio ou une prise de sang. Et c'était donc pas du tout le champ des soins spécifiques au handicap. Alors, cet état des lieux a permis de faire un certain nombre de constats fondamentaux. Le premier, c'est que la personne en situation de handicap et ses proches souhaitent majoritairement accéder aux soins de droit commun, mais de la façon donc la plus autonome possible et de la façon la plus aussi adaptée possible. Un deuxième constat, c'est que la personne en situation de handicap, il est bien un citoyen comme les autres et il a un double besoin. Il a le besoin d'être comme tout le monde, c'est-à-dire sans devoir expliquer ou justifier systématiquement son handicap, et à la fois, il a besoin parfois d'être traité de façon spécifique. Et en fait, ces besoins vont apparaître soit simultanément, soit en alternance. Ces deux types de besoins, ils vont se manifester en proportion variable suivant le type de handicap, le type de soins et autres paramètres extrêmement intéressants, c'est l'état moral de la personne. Et en fait, la prise en compte de ces deux besoins, donc soit simultanément, soit en alternance, va vraiment être un atout pour accéder à la santé. Alors, le périmètre de l'état des lieux, je vous l'ai dit, c'était les soins courants. Et bien finalement, il s'avère que les soins courants et les soins liés au handicap sont totalement indissociables, pour la bonne raison évidemment au départ qu'il s'agit de la même personne, mais que également tous les soins qui peuvent être en lien avec le handicap vont faciliter cet accès à la santé, et notamment tous les soins précoces, donc auprès des enfants, qui vont faciliter la communication et l'intégration. C'est un enfant qui va apprendre à apprivoiser les situations de soins, qui va apprendre à attendre, qui va apprendre à avoir un comportement adapté, et ça, ce sont des clés, des baguettes magiques en quelque sorte, pour plus tard son accès aux soins courants. Alors, accéder aux soins courants, c'est perçu comme compliqué. Alors, la phrase qui revenait le plus souvent, c'est le parcours du combattant. Voilà, donc c'est parfois complexe, ça demande de l'organisation, ça prend toujours beaucoup de temps. Donc, déjà, nous, on sait que quand il faut planifier des rendez-vous, c'est pas si simple. Mais alors, pour une personne en situation de handicap et ses proches, c'est encore plus compliqué. Et du coup, la maladie ou le handicap va éloigner la personne de la médecine classique parce que tout devient tellement plus compliqué. Et du coup, pareil, de façon très logique et très pertinente, les proches vont s'attacher à prévenir tous les problèmes de santé pour ne pas avoir à faire ce parcours du combattant et à augmenter les difficultés. Alors, un des constats aussi fondamentaux, l'accès aux soins repose sur la confiance. Et cette confiance, elle va se tisser entre la personne et ses proches et le professionnel de santé. Et cela, c'est important, quel que soit l'âge, quel que soit le type de handicap et quel que soit le mode de communication de la personne en situation de handicap. Mais en fait, plus que la connaissance pointue du handicap, on le sait bien, c'est important pour des familles, pour une personne en situation de handicap, d'avoir quelqu'un qui connaît à minima en face. Mais c'est surtout l'attitude bienveillante, c'est l'accueil, c'est l'adaptabilité, c'est la capacité à écouter qui va faire la différence. Et quand on est dans cette, on va dire dans cette posture, quand le professionnel de santé est dans cette posture, alors il va trouver les moyens de communiquer avec la personne, quel que soit son handicap. Quels sont les besoins des personnes en situation de handicap et de leurs proches? Avant tout, et cela a déjà été dit maintes fois ce matin, être considéré comme une personne, pour ne pas que le handicap vienne masquer la personne qui est derrière. Pouvoir être aussi de droit, on va dire, accompagné par la personne de son choix dans quelque situation de santé que ce soit. Être également reconnu comme expert de sa maladie ou son handicap. Être respecté dans ses choix, dans ses projets, même si ses projets paraissent irréalistes pour le professionnel de santé, qu'il soit respecté, qu'il soit accueilli comme tel et que les décisions soient prises en compte. Ensuite, encore une fois, parce que le handicap n'est pas comme un grand écran qui cacherait la personne est toujours là. Elle souhaite, et sa famille, qu'on respecte son intimité et sa pudeur. Et bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, être dans une relation de confiance et de dialogue. Alors plus spécifiquement pour les personnes elles-mêmes, c'est vraiment ce qui vient de façon très forte, c'est le repérage, le dépistage de la douleur et la prise en compte de la douleur qui ne peut pas toujours être exprimée de façon simple ou compréhensible par la personne. Également moins attendre quand ce n'est pas possible d'attendre, mais parfois c'est tout à fait possible d'attendre. C'est comme la priorité aux caisses de supermarché, voilà. Et bien des fois, comme la personne handicapée est une personne comme tout le monde, elle souhaite attendre comme tout le monde, parfois ce n'est pas possible. Et puis, là encore, parce que le handicap n'est pas comme un grand écran qui a une personne derrière, elle peut avoir cette personne besoin d'une aide psychologique. Et le parcours, là encore, est compliqué pour trouver quelqu'un qui va pouvoir donner cette aide. Enfin, pour les proches, le besoin et l'attente, c'est d'être accompagné, rassuré, soutenu, pouvoir être dans leur rôle de parents. Ils ne sont pas toujours les aidants de leurs proches, ils ont leur propre rôle au sein de la famille, et également pouvoir passer la main, là aussi sur un principe de confiance, et vous savez comme le handicap épuise les aidants. Alors, vis-à-vis du professionnel de santé, je vous l'ai dit tout à l'heure, la base c'est la confiance. Donc, vous voyez toutes les attentes de prendre son temps, de procéder par étapes, voilà, d'avoir de l'empathie. Et bien évidemment, une connaissance suffisante du handicap pour pouvoir proposer des solutions et avoir un avis médical fondé, parce que un certain nombre de personnes ont témoigné devoir prendre des décisions médicales pour elles-mêmes ou pour leurs proches parce que le professionnel disait je ne sais pas. Alors le problème n'est pas de ne pas savoir, puisque ce qui est le plus important, c'est la bienveillance du professionnel de santé, c'est qu'il soit capable d'apprendre, qu'il soit désireux d'apprendre de quelque moyen que ce soit auprès de la personne, de ses proches, auprès de ses pairs, et par tous les moyens qui lui semble bon, il peut apprendre, et alors à ce moment-là, il pourra avoir un avis médical fondé. Donc le professionnel de santé de référence, donc vous l'avez bien compris, va jouer un rôle pivot dans l'accès à la santé. C'est souvent le médecin de famille, pas toujours. Ça peut être un spécialiste, la relation va durer souvent des années, hein, et c'est vraiment un repère essentiel. Et c'est très compliqué quand le professionnel de référence soit déménage, soit part à la retraite. C'est comme pour nous. Quand on a confiance dans nos médecins, eh bien on n'aime pas trop qu'ils s'en aillent à la retraite, ils n'ont pas le droit. Là, c'est encore plus aigu, on va dire. Alors finalement, cet état des lieux met en évidence que l'accessibilité, finalement, c'est toute une chaîne avec un certain nombre de maillons, et que chacun des maillons, ben, ça va être comme une porte ouverte ou fermée qui va à les barrières qui s'ouvrent ou qui se ferment pour faciliter l'accès à la santé courante. Donc il y a l'accessibilité à l'information, il y a l'accessibilité des transports, il y a l'accessibilité des locaux et des matériels, des différentes aides, et bien évidemment des professionnels de santé. Donc ce que l'on peut conclure, c'est que tout ce qui facilite l'autonomie dans la vie quotidienne, toute cette chaîne d'accessibilité facilite l'accès à la santé. Et bien sûr, il ne suffit pas d'avoir un professionnel de santé qui veut bien m'accueillir. Si je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas de moyens de transport, ça ne marche pas. On s'approche vers la fin, vous inquiétez pas. Alors, toutes les personnes que j'ai rencontrées avaient beaucoup d'idées sur comment on pouvait améliorer les choses. Donc, au niveau de l'information, puisqu'on est au niveau de la chaîne d'accessibilité, donc c'est renforcer la prévention sous toutes ses formes. Cela a été dit plusieurs fois déjà, je ne m'étendrai pas. Alors, une idée qui était de créer une permanence accueil handicap santé à la maison départementale du handicap, qui est déjà un guichet unique du handicap. Donc, pourquoi pas un guichet unique d'information et d'orientation à la santé. Ensuite, évidemment, constituer des supports pratiques d'information, aussi bien à destination des personnes, des familles, des associations, et puis l'autre versant, c'est les professionnels de santé. Sans oublier l'accessibilité avec les outils numériques, Monsieur Maury en a parlé, voilà, et intégrer les experts que sont les proches et les personnes en situation de handicap à l'élaboration du cahier des charges pour l'accessibilité des applications. Alors pour les transports, évidemment, c'est plus de transports, plus de bus, avec plus de plateformes qui vont pouvoir vraiment descendre, même quand la route est comme ça, parce que le chauffeur a été formé. C'est plus d'ambulances pour éviter les ramassages, les tournées de ramassage qui vont faire que, au lieu d'être tout seul en ambulance, on est à quatre et on arrive en retard à son rendez-vous. Et ben c'est dommage, mais il va falloir revenir. Des ambulances qui pourraient être équipées davantage pour des fauteuils, parce que une personne au fauteuil n'a pas forcément envie de voyager allongée. Voilà. Des taxis qui peuvent attendre durant des rendez-vous. Voilà. Alors, pour les aides, donc des idées également pour adapter le droit et la réglementation, notamment dans les cas où la maladie ou le handicap sont irréversibles, eh bien, alors des cartes d'invalidité de stationnement et la prestation de compensation, qui soient à vie, comme le handicap ou la maladie, bien sûr, avec la simplification des dossiers de renouvellement. Reconnaître aussi les soins qui sont supplémentaires, qui sont nécessaires et qui, quand ils sont liés à la grande dépendance. Et puis, introduire de nouveaux droits. Alors, le principe du rendez-vous, comme à la caisse du supermarché, excusez-moi pour les professionnels de santé, vous n'êtes pas des supermarchés, mais ça parle à tout le monde. On n'utilise pas forcément sa carte de priorité, mais quand on en a besoin, alors c'est possible. Voilà, pour réduire les temps d'attente. Alors, pourquoi pas calquer la limite de reconnaissance du handicap qui est aujourd'hui à 60 ans sur l'âge de la retraite qui est de 62 ans. Alors, on pourrait, voilà. Et puis, par exemple, reculer la date de remboursement pour les soins dentaires, l'orthodontie, puisque eh bien, le handicap fait que l'enfant n'a pas forcément, à l'âge requis réglementaire, la maturité pour accepter l'appareil. Et donc, voilà, ça pourrait être adapté. Le dernier point, c'est chez les professionnels de santé, améliorer l'accueil, que ce soit chez les libéraux dans les cabinets, que ce soit à l'hôpital avec des permanences d'accueil, chez les libéraux, mais aussi tous les services de santé de proximité, c'est pouvoir prendre le temps, pouvoir faire de l'habituation, que les soins ne se fassent pas la première fois, parce que il faut parfois que la personne s'habitue, connaisse les lieux, comprenne ce qu'on va lui faire, et pour que ça se passe bien, in fine, peut-être la troisième fois. Voilà. À l'hôpital, faciliter le regroupement de rendez-vous et quand une opération est programmée, permettre une priorité aussi au bloc pour éviter les attentes. Enfin, renforcer la formation initiale et la formation continue des professionnels de santé avec tout un tas de bonnes idées. Bien évidemment, pour pouvoir fédérer les professionnels de santé libéraux, eh bien, il faut aussi rendre plus attractif cet accueil de personnes en situation de handicap, notamment avec des compléments de cotation ou des surcotes, donc au niveau des actes et tarifaires, étendre par exemple ces compléments de cotation aux personnes en situation de handicap, encourager et faciliter les pratiques d'accessibilité, par exemple. Ensuite, il y a l'idée de créer des nouveaux services qui a aussi émergé, donc la fameuse carte informatisée qui contiendrait le dossier médical de la personne, qu'elle pourrait donner à discrétion quand elle va en visite chez un médecin. Elle n'a pas à tout raconter sa vie et son dossier médical. Voilà, et qui serait gérée par la personne elle-même. Donc des équipes mobiles d'urgence et de soins courants, les principaux qui préoccupent les personnes et leurs familles, au domicile ou au lieu de vie. Pourquoi pas des taxis le soir, le dimanche, les jours fériés? Pourquoi pas des aides à domicile qui pourraient intervenir la nuit et pas seulement dans la journée? Et puis des coordinations de soins administratifs qui existent dans les SAMSA, les services d'accompagnement médico-sociaux pour les adultes, mais qui pourraient être étendues à des personnes qui n'ont pas cette notification, par exemple, mais qui en ont le besoin. Donc, pour conclure, au-delà de la chaîne d'accessibilité, il y a aussi quelques leviers qui sont importants pour l'accès à la santé, parce que là, on va prendre la personne dans son contexte global, c'est des ressources matérielles suffisantes pour éviter la précarité. On sait que la précarité éloigne des soins. C'est aussi un des leviers très puissants, c'est avoir un entourage, donc quel qu'il soit, proche, bénévole, association, professionnel, qui peut soutenir, aider, expliquer, accompagner et permettre aussi à la personne en situation de handicap de développer, de renforcer son estime de soi et sa confiance en soi. En conclusion, donc faciliter l'accès aux soins courants d'une personne en situation de handicap, finalement, ce qu'il ressort, c'est bien que c'est faciliter l'accès à la santé pour tous les citoyens et que nous autres, les citoyens lambda, on accepte souvent par habitude des obstacles qui pourraient être évités avec un peu d'engagement, d'opiniâtreté et d'énergie et de bonne volonté. Et que la situation de handicap, finalement, est un révélateur de ces obstacles et peut-être un accélérateur de progrès pour tous. Je tiens à remercier très chaleureusement toutes les personnes en situation de handicap, leurs proches, les bénévoles, qui ont fait parfois un petit parcours du combattant pour qu'on puisse se rencontrer et donc qui m'ont transmis leur connaissance et leur expertise. Un merci également particulier à l'Agence régionale de santé qui a permis et soutenu cette étude, et des remerciements peut-être un peu plus spécifiques à M. Billot pour son implication sans faille. Merci.